7h20 à Paris, bientôt 2 semaines après l'entrée en vigueur de l'accord entre Israël et le Hamas. Un 4e échange prévu aujourd'hui. 3 otages israéliens et 183 prisonniers palestiniens doivent être libérés aujourd'hui. Et cette nouvelle journée sera-t-elle l'occasion de nouvelles images, comme on en a vu dans la semaine qui vient de s'écouler, des otages amenés sur une estrade pour saluer la foule avant d'être remis à la Croix-Rouge, certificats et même sacs de cadeaux en main. Jeudi, d'autres otages ont dû pour leur part traverser une foule survoltée pendant de longues minutes escortées par des combattants. Des images dénoncées par Israël qui a demandé des garanties pour les prochaines libérations. Mais que nous disent ces mises en scène et où en est-on aujourd'hui de la guerre des images entre les deux camps? Quelle perspective aussi, alors que les négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu doivent reprendre? On fait le tour de la question ce matin avec notre invité. Bonjour Denis Charbit.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, chercheur franco-israélien et professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel, près de Tel Aviv. On voit donc cette volonté du Hamas de mettre en scène et de se mettre en scène lors des libérations. À qui ces images sont-elles adressées, selon vous ?
Je veux dire qu'elles sont adressées à la communauté internationale, elles sont adressées aux Palestiniens et notamment de la bande de Gaza et même à l'autorité palestinienne et puis aussi aux Israéliens. C'est une manière de dire nous n'avons pas perdu tous les discours considérant que nous avons été détruits sont vains puisque nous montrons, c'est une démonstration de force, c'est une capacité. Je dirais que d'une certaine manière, c'est répondre à la définition même du terrorisme. Nous sommes là pour répandre la terreur. Alors surtout, les dernières images que vous avez évoquées, c'est-à-dire quand les deux otages ont fendu la foule dans des conditions qui ont fait que nous avions tous le souffle suspendu. Voilà, c'est une manière de dire nous existons et nous correspondons à l'image que vous avez de nous, là où on aurait pu penser en termes de guerre d'image, qu'on va au contraire soigner l'image, dire regardez, nous les avons certes détenus, mais nous les avons échangés contre des prisonniers palestiniens dans de bonnes conditions. Non, c'est l'idée, c'est une mise en scène dont on se demande d'ailleurs, mais qui vient-elle convaincre? Parmi même ceux qui soutiennent la cause palestinienne, voire le Hamas, qui est convaincu par de telles images?
Il y a aussi la volonté peut-être d'envoyer une image de victoire. On a vu cette inscription qui a beaucoup choqué, je cite, « La victoire du peuple opprimé sur le sionisme nazi » sur des panneaux derrière les otages. C'est la volonté de montrer que le Hamas sort, selon lui, victorieux de ces 15 mois de guerre?
Oui, tout à fait. C'est dire qu'il existe toujours. Mais je dirais que, là, pour le coup, dans une guerre asymétrique, le plus faible, s'il tient bon, il apparaît toujours comme objectivement celui qui a gagné. Même si, en termes de rapport de force, les choses n'en sont pas là. Mais c'est l'idée de montrer que, bien sûr, on a été défait sur le plan militaire, mais qu'on reste sur le plan administratif, sur le plan politique. C'est nous les propriétaires. C'est nous qui sommes les maîtres de la bande de Gaza. C'est nous qui allons diriger le flot de réfugiés qui revient. Et ça, effectivement, c'était capital, je dirais même, pour le Hamas. Dans un moment où il est quand même, et c'est ça je pense, c'est pour ça que ça s'adresse aussi aux Palestiniens de Gaza, attention, ayez peur de nous. Nous sommes à la fois vos libérateurs, mais aussi ceux qui vous tiennent de très près. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez inquiétant, même pour les Palestiniens, dont on dit d'ailleurs, ceux de Gaza, qu'ils s'expriment. C'est-à-dire qu'en même temps, ils détestent Israël, puisque Israël leur a fait la guerre. Mais ils détestent pas moins ce régime qui les a conduits ici.
Les lieux où les libérations sont montrées changent à chaque fois. On a vu ces estrades samedi dernier, d'abord dans le vieux Gaza. Jeudi ensuite dans le sud à Khan Younes et la scène de bousculade à Jabalia. Le choix des lieux a aussi son importance pour le Hamas en termes de communication?
Oui, c'est montré effectivement qu'il est maître partout, que aucun territoire et notamment ces lieux symboliques sont Jabalia, Khan Younes, on dit que c'était à côté de la maison de Yehi Sinwar, le chef, le dirigeant du Hamas, celui qui a mené
l'attaque du
7 octobre. Exactement. C'est dire nous reprenons le contrôle. Voilà, c'est montrer que nous contrôlons. comme nous savons contrôler, c'est-à-dire par la force, avec des cagoules, avec les Kalachnikov, etc.
Oui.
Voilà, ce qui montre bien qu'on est toujours, on est dans une phase de, non pas de réconciliation, non pas de, ça va être la fin des combats sans doute, effectivement, mais pas la fin de la guerre.
Dans ces échanges de libération, on voit l'exact inverse côté israélien. Comme un négatif de photo, Israël veut à tout prix éviter de son côté les scènes de liesse autour des prisonniers palestiniens relâchés. Ils sortent de prison dans des bus, les célébrations sont interdites par endroits, notamment à Jérusalem-Est. Pour Israël, la victoire communicationnelle, c'est l'absence d'image.
Oui, c'est, je dirais, c'est non, c'est faire surtout illustrer le fait que ce n'est pas un échange entre prisonniers, ce n'est pas un échange d'égal à égal. Mmh. Ce sont des innocents qui sont libérés. Là, je parle bien sûr des otages israéliens et israéliennes, et ce sont des Palestiniens qui ont décidé de vouer leur combat à la lutte palestinienne et qui ont, comme nous disons en hébreu, enfin je traduis ici en français, du sang sur les mains, c'est-à-dire qui ont tué des civils, des innocents à Haïfa, à Tel Aviv, à Jérusalem, et que dans ce cas-là, bien sûr que leurs familles se satisfont de leur libération anticipée, ils auront tous purgé une vingtaine d'années de prison environ, qu'il y a que finalement c'est une rançon, quand on cède à une rançon, puisque c'est quand même cela aussi, cette négociation, eh bien, il n'y a pas de quoi pavoiser. Et en tout cas, ce n'est pas Israël qui tolérera l'expression publique de ses satisfactions, même si j'imagine bien sûr que pour les familles, c'est un grand jour. Mais les conditions, n'oubliez, ce n'est pas un échange entre prisonniers des deux côtés qui ont été retenus au bout de quelques mois et plus d'un an d'ailleurs de combat.
Les négociations sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu doivent reprendre dans les prochains jours. L'une des craintes au moment où il est entré en vigueur, c'était que Benjamin Netanyahou, sous la pression de l'extrême droite notamment, relance la guerre à l'issue des 6 premières semaines de la première phase. Bientôt 2 semaines après le début du cessez-le-feu, les conditions vous paraissent-elles plus favorables aujourd'hui pour que la paix s'installe dans la durée ?
Oui, et pour ça, il faut me parler encore des images, si je puis dire, c'est-à-dire les images qui sont en moins grand nombre, hein, mais de la libération de ces otages. L'image que tous les Israéliens veulent voir, c'est, même si ça relève du privé, c'est le premier baiser que donnent leurs parents à leurs enfants, à leur mari, etc. Après, aujourd'hui, c'est la première fois que des hommes sont libérés. Voilà, c'est ça qu'on veut voir parce que c'est un an, si vous voulez, plus d'un an, de tension, on a vécu, et je dirais que la manière dont on couvre cela, et c'est 24 heures sur 24, si je puis dire, de direct autour de la libération des oiseaux, on ne parle pratiquement de rien d'autre, je pense que ça crée également une pression supplémentaire sur Benjamin Netanyahou pour que ce soit non seulement un échange réussi et qui vraisemblablement parvient à se réaliser dans les meilleures conditions, mais c'est surtout la fin de la guerre que l'on réclame. Et ça, je pense que la pression public aujourd'hui, l'émotion collective fait que on ne reviendra pas aussi facilement au combat comme il l'avait peut-être souhaité. Et puis n'oublions pas, un des deux acteurs de l'extrême droite a quitté le gouvernement, précisément comme une sorte d'ultimatum, mais vraisemblablement ça donne plus les coups des franges au gouvernement qui ne pourra pas reculer. Et la troisième élément qui est peut-être indispensable, certains disent même c'est l'élément majeur et qui explique qu'on pourra passer à la seconde phase, c'est Donald Trump qui met tout son poids dans la balance, qui a envoyé son délégué pour rencontrer tout le monde hier, les otages libérés ou avant-hier, les otages libérés, les familles, les ministres, même l'opposition, et plus encore, c'est Netanyahou qui est, je dirais pas non seulement invité, mais sollicité très fermement,
presque
à se
convoqué
rendre à Washington
à la Maison Blanche
la semaine prochaine.
Merci,
exactement.
Merci beaucoup Denis Charbit d'avoir répondu à l'invitation des RFI ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur franco-israélien, professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel près de Tel Aviv. Très bonne journée à vous.